Vous écoutez France Culture, il est 8h et c'est le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Julie, bonjour à tous. L'effondrement du viaduc autoroutier a fait au moins 35 morts à Gênes, dans le nord de l'Italie. Alors que les opérations de secours se poursuivent ce matin, reportage sur place dans un instant avec notre envoyée spéciale Delphine Evenoux. La question de l'entretien des infrastructures est au cœur du débat en Italie où le ministre de l'Intérieur annonce un vaste plan national. Nous irons à Rome rejoindre notre correspondant Antonino Gallofaro.
Malte autorise l'Aquarius à accoster, mais pour l'accueil des 141 migrants, il y aura une répartition entre 5 pays européens.
L'Allemagne, la France, l'Espagne, le Portugal et le Luxembourg se répartiront les rescapés. C'est le résultat d'une négociation de plusieurs jours. Mais on est encore très loin d'une politique européenne sur le sujet des migrants, analysera à Bruxelles Lakshmi Lotha.
Aux États-Unis, le Nebraska a pratiqué la première exécution à mort d'un condamné depuis 20 ans.
Malgré le recours d'un laboratoire allemand qui refusait l'usage de son produit pour cette exécution. Analyse à suivre avec Claude Guillemot, elle est spécialiste des prisons et des couloirs de la mort aux États-Unis.
Et puis en RDA, 200 millions d'euros retrouvés dans les caisses cachées de l'ancien parti communiste de RDA, nous racontera à Berlin Pascal Thibault.
Alors qu'en France, certains militants tentent d'occuper le terrain pendant le mois d'août, nous dira Anne Fauquemberg. Nous partons tout de suite à Gênes, dans les décombres du pont d'autoroute qui s'est effondré hier, faisant au moins 35 morts selon un bilan qui vient de tomber à l'instant. Les sauveteurs cherchent encore des survivants dans les gravats. Le pont s'est écroulé hier matin sur une centaine de mètres et a projeté des dizaines de personnes dans le vide. Sur place, le reportage de Delphine Evenoux.
Dans la rue Paul Cevera, qui passait il y a encore 24 heures sous le pont Morandi, les camions de pompiers croisent les voitures de policiers. Les hommes au regard fatigué passent le relais à ceux qui sont plus frais. Le travail est aussi titanesque que cet amas de béton, de fer et de carcasses automobiles qu'ils doivent explorer. Luca Cari, porte-parole des pompiers.
C'est un travail très très compliqué, car les parties du pont écroulées sont des masses de béton qui pèsent des tonnes. Le but est d'entrer dans les décombres en minimisant les risques d'effondrement pour nos pompiers.
Patrick Villardry, pompier volontaire à Nice, est venu prêter main forte avec ses deux chiens d'intervention. Il a déjà travaillé avec ses homologues italiens lors du tremblement de terre de L'Aquila en 2009.
Les pompiers italiens sont rompus à ce genre de situation. À part la hauteur du pont qui est de 45 mètres et qui est vertigineuse, c'est toujours la même chose. C'est du béton, de la ferraille et des gens coincés dessous.
Un peu plus loin, tenus à distance derrière une barrière, des Génois scrutent les restes de ce pont qu'ils empruntent tous les jours. Dario en a des
frissons.
Ce pont-là est le symbole de Gênes. Il nous relie au port, on l'emprunte pour aller à Milan. Il relie à tout. Les travailleurs, les vacanciers, les chauffeurs routiers, tout le monde prend ce pont.
Et pourtant, il y avait tout le temps des travaux, ajoute Dario, avant de conclure dans un soupir. Cette fois, cela n'a pas suffi.
Delphine Evenoux. Les questions affluent sur les causes de cette catastrophe. La vétusté des infrastructures notamment est mise en question. À Rome, Antonino Gallofaro.
Le viaduc Morandi, ce qu'il en reste, sera démoli. Pour le vice-ministre des infrastructures, il le sera malgré les graves répercussions sur le trafic et les problèmes pour les citoyens et les entreprises. Eduardo Rixi est cinglant. Les ponts de ce genre ne s'écroulent pas à cause d'un coup de foudre ni pour un orage. Il faut trouver selon lui les coupables. Ses paroles font écho à celles de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, celui qui est aussi le chef de la Ligue, à l'extrême droite et au pouvoir. C'est d'hier énervé et prêt à trouver les responsables pour leur faire payer. Autostrade per l'Italia, qui gère ce tronçon d'autoroute, ne comprend pas le drame qui est inattendu et imprévu car le pont était sous contrôle. L'architecte du viaduc est pour l'heure pointé du doigt pour le choix du matériau utilisé. Une enquête a été ouverte. Mais entre-temps, le ministre eurosceptique ne s'est pas épargné une critique à l'Union européenne dont certaines contraintes empêchent selon lui de dépenser des fonds pour mettre en sécurité les infrastructures. Mais le débat est bien là dans l'investissement. Dans un pays connu pour la vétusté de ses routes, habitué à l'effondrement des ponts, même si dans d'autres proportions.
Antonino Gallofaro, le correspondant de France Culture à Rome.
C'est la fin de l'épopée de l'Aquarius, le bateau qui porte secours aux migrants en Méditerranée, Sophie Delpont.
Le gouvernement de Malte a finalement autorisé hier le navire qui a secouru 141 migrants au large de la Libye à accoster dans un de ses ports. Les 141 rescapés à bord de l'Aquarius seront répartis ensuite entre la France, l'Allemagne, le Luxembourg, le Portugal et l'Espagne. Un accord européen a finalement été trouvé. À Bruxelles, Lakshmi Lotha.
Une solution trouvée grâce à des discussions franco-maltaises avec l'appui de la Commission européenne. Il n'a fallu cette fois que 4 jours à l'UE pour sortir de cette nouvelle crise liée aux migrants. Malte servira de base logistique et 5 pays se répartiront les passagers du navire. Le commissaire chargé des migrations a salué cet accord, mais a souhaité aller plus loin. « Nous ne pouvons pas nous en remettre seulement à des arrangements au cas par cas. Il nous faut des solutions durables », a-t-il dit. Le représentant souligne également l'absence de consensus sur cette solidarité. « Ce n'est pas la responsabilité d'un seul ou de quelques-uns seulement de nos États membres, mais de l'Union européenne dans son ensemble », peut-on lire. Les 28 doivent se revoir le 20 septembre en Autriche pour évoquer la politique migratoire. La France fera des propositions dans les prochaines semaines pour la mise en place d'une réponse efficace, indique l'Élysée. C'est un accord qui rend un peu son honneur à l'Europe, s'est félicité pour sa part le ministre des Affaires étrangères.
Lakshmi Lotha, la Turquie riposte face aux États-Unis sur le terrain économique. Le président Erdogan a signé un décret qui relève les droits de douane de 120% sur les véhicules de tourisme, de 140% sur les boissons alcoolisées et de 60% sur le tabac. Des hausses également prévues pour d'autres produits tels que les cosmétiques, le riz et le charbon. Réponse après les sanctions financières prises par Washington contre les ministres turcs de la justice et de l'intérieur en raison de leur implication dans l'arrestation et l'emprisonnement du pasteur Andrew Brunson. Vendredi dernier, Donald Trump avait aussi annoncé un doublement des droits de douane sur l'acier et l'aluminium turc importés aux États-Unis. Plus de 300 prêtres accusés d'actes pédophiles aux États-Unis, selon une enquête des services du procureur de Pennsylvanie publiée hier. Plus de 1000 enfants auraient été victimes de ces actes qui auraient été couverts par l'Église catholique de cet État. Quasiment tous ces cas sont aujourd'hui frappés par la prescription et ne peuvent être poursuivis pénalement. Seulement 2 prêtres sont actuellement inculpés. Bruno Santo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes jésuite et l'invité des matins d'été de France Culture. Que faut-il faire pour que cessent ces affaires dans l'Église catholique ?
Eh bien déjà, il faut en parler. C'était très bien dit. L'Église en a parlé sous la pression, on pourrait dire sous les scandales qui sont révélés. Il y a une culture du silence qui est ancienne, elle est très ancienne. Donc c'est une honte profonde pour l'Église, je pense, pour le clergé plus particulièrement. Et il faut briser cette culture du silence. Les personnes n'en parlaient pas pour des tas de raisons, en raison du pouvoir de l'Église. Peut-être chez certaines, d'ailleurs très bien, très respectueuses du clergé comme tel, pour ne pas faire scandale, pour ne pas porter atteinte à la dignité du sacerdoce. Donc il y a aussi des silences qui sont dus à la prise de conscience de la dignité du sacerdoce et pour ne pas justement jeter le discrédit sur l'Église entière. Là, ça atteint une telle proportion que le discrédit est jeté sur l'Église entièrement, sur le clergé plus particulièrement, sur sa formation. Pourquoi avons-nous entretenu une culture du silence ? On peut très bien se défendre en disant que c'était la culture de la société dans l'époque et que tout le monde était, on pourrait dire, baigné dans cette culture-là, les instituteurs également, tous ceux qui étaient en contact avec les enfants. Mais je pense que ça ne suffit pas. Donc il y a un électrochoc qui est extrêmement fort, puissant, qui interroge toute la formation dans l'Église, qui interroge le rapport à la sexualité, qui interroge le rapport à la formation des prêtres, notamment. Comment sont-ils formés? Comment sont-ils validés aussi dans leurs expériences? Comment vivent-ils leur sexualité? Donc cette prise de conscience-là, elle est très douloureuse. À mon avis, elle est salutaire. Elle va jeter le discrédit sur beaucoup d'institutions d'Église, notamment les institutions de formation. Il faudra prendre ça en compte. Une perte de confiance aussi de beaucoup de fidèles, notamment dans l'éducation des enfants. Donc je pense que c'est très difficile, actuellement c'est très difficile, pour le clergé, pour les éducateurs dans l'Église. Mais écoutez, il y a une opération vérité, et là on ne peut pas dire que le pape François ne veuille pas une opération vérité, même si on lui a reproché un certain nombre de déclarations un peu trop rapides en défendant des personnes, notamment quand il était parti au Chili. Je crois qu'il a une conscience très vive, comme le pape Benoît XVI d'ailleurs, de la gravité de la situation, et qu'il est déterminé à tout faire pour remédier à cette situation-là.
Merci Bruno Santo. Donc vous êtes jésuite et l'invité des petits matins et des matins de France Culture. En Allemagne, les fonds cachés de l'ancien parti communiste de RDA s'élevaient à 200 millions d'euros. Et ce sont les Länder de l'Est de l'Allemagne qui vont recevoir cette somme. Pascal Thibault nous appelle de Berlin.
1 million d'euros pour une exposition autour des restes du mur, presque autant pour un campus de la démocratie, là même où la police secrète est-allemande, la Stasi, avait son siège. La ville de Berlin a rendu publique hier la liste des projets qu'elle financera avec l'argent reçu, comme les autres Länder de l'Est du pays. Si des projets d'infrastructure profiteront de cette manne, la ville voulait aussi faire un geste et symboliquement utiliser l'argent issus du patrimoine de l'ancien parti communiste est-allemand pour des projets liés au travail de mémoire sur la RDA. Avec les près de 200 millions d'euros qui ont été versés de façon inattendue aux régions de l'Est du pays récemment, c'est un peu un thriller politico-financier qui s'achève. Le parti communiste est-allemand, le SED, disposait d'un patrimoine conséquent avec des biens immobiliers, des participations dans des entreprises et des fonds en liquide. Le premier et dernier gouvernement démocratique de la RDA veut, au printemps 1990, mettre ses actifs sous surveillance. Mais beaucoup vont disparaître grâce à des dons, de généreux prêts et des montages financiers à faire pâlir des capitalistes purs et durs. En 2006, une commission annonce avoir retrouvé une partie du butin, soit plus d'un milliard d'euros. Les banques suisses sont contraintes de restituer les fonds à l'État allemand. La dernière tranche a été versée au printemps. Près de 30 ans après la chute du mur de Berlin, c'est peut-être la dernière fois qu'on retrouve une partie de ce pactole. Les experts estiment que plusieurs centaines de millions d'euros ont disparu.
Pascal Thibault, le correspondant d'RFI pour France Culture à Berlin. Nouvelle exécution d'un condamné à mort aux États-Unis dans l'État du Nebraska. C'est la première fois depuis 20 ans. Caredine Moore, âgé de 60 ans, a finalement été exécuté hier malgré le recours déposé par le laboratoire allemand qui produit la substance mortelle. Et ce laboratoire refusait son utilisation dans ce cadre. Claude Guimot est spécialiste des prisons et des couloirs de la mort aux États-Unis, auteur de la bibliographie de Mumia Abou-Jamal aux éditions du temps des cerises, elle répond à Nadine Epstein.
Il est exécuté avec un protocole tout à fait nouveau, mis en place par l'État qui avait aboli la peine de mort en 2015. Mais comme par référendum a été rétabli en 2016, le gouverneur et le directeur de la prison ont absolument tenu à exécuter Caredine Moore. C'est un des plus vieux condamnés à mort qui a passé le plus de temps dans le couloir de la mort, puisqu'il a passé 38 ans. Il lui a administré d'abord un sédatif, le diazépam, et ensuite, ce produit donc du laboratoire allemand, le fentanyl, extrêmement controversé. Le laboratoire allemand a fait appel, a déposé une plainte au civil, mais son appel a été rejeté par le tribunal fédéral, ce qui est un peu inquiétant quand même. Et l'argument du directeur de prison, ça a été qu'il fallait l'utiliser tout de suite parce qu'il y avait une date de péremption, il avait peur qu'ensuite il ne soit plus bon.
Comment expliquez-vous finalement cette reprise des exécutions au Nebraska ?
Dans certains États, on abolit la peine de mort, mais dans d'autres États, comme c'est le cas au Nebraska, on la rétablit. C'est une Amérique qui est extrêmement divisée, 30% de la population extrêmement conservatrice, 30% qui est très progressiste, c'est ce qu'on a vu avec Bernie Sanders, puis 30% qui ne se prononce pas, et il y a beaucoup de gens qui ne votent pas de toute façon. C'est le paradoxe américain. Moi, je suis toujours très réticente quand on me dit « Oh, la peine de mort, elle est en bonne voie, elle va être abolie aux États-Unis ». Je suis toujours très réticente parce qu'ils sont extrêmement attachés.
Les propos recueillis au micro de Nadine Epstein. La France est loin de produire l'électricité la moins chère d'Europe. C'est l'agence européenne Eurostat qui le dit. La France qui pointe même à la 16e place du classement, Sophie Delpont.
Et l'importance du parc nucléaire français ne serait donc pas la garantie de prix plus bas qu'ailleurs, Jean-Marc Chardon.
C'est en Bulgarie qu'il faut aller pour trouver l'électricité au meilleur prix aujourd'hui, presque deux fois moins cher qu'en France. Mais que vaut la comparaison ? La Bulgarie arrive en queue de peloton pour le pouvoir d'achat en Europe. Pour les Bulgares, eh bien, ça représente une facture relativement plus lourde dans leur budget. Reste que c'est plutôt dans la partie orientale de l'Europe que l'on consomme de l'électricité à des prix moins élevés. Hongrois, Roumains, Croates déboursent relativement peu, entre 10 et 13 centimes d'euros le kilowattheure contre 17 en France. De quoi reposer la question de la pertinence du choix nucléaire sur les prix de l'électricité. Un argument que les antinucléaires ne peuvent que mettre en avant. Pour autant, ce type de comparaison a aussi ses limites. Les États où la facture énergétique est faible représentent seulement le quart des Européens disséminés dans de petits pays. Ils ne sont pas représentatifs des principales économies. Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni où le coût de l'électricité au ménage s'affiche dans la moyenne haute au-delà de celle de la France, quels que soient leurs choix énergétiques. Vu par les défenseurs du modèle existant, c'est surtout l'augmentation considérable des taxes depuis ces dernières années au niveau de la distribution, des transports et pour le financement des énergies renouvelables qui expliquerait que la France se classe un peu moins bien dans le paysage européen.
Jean-Marc Chardon. Du soleil partout aujourd'hui à l'exception du nord et des côtes de Bretagne et de Normandie qui devraient rester sous les nuages. Température comprise entre 18 et 27 degrés ce matin du nord au sud avec 18 degrés à Saint-Malo, 22 degrés à Paris, 27 à Nîmes ce matin. Cet après-midi, 26 degrés à Paris et jusqu'à 30 degrés le long de la Méditerranée, Julie Gacon.
Merci Sophie Delpont. On vous retrouve tout à l'heure à 9h.